Bonjour à tous. Vous pouvez me dire bonjour. Ça me fera plaisir. Bonjour, c'est un plaisir d'être ensemble. Même si vous avez constaté, j'ai des problèmes. Ma guitare joue très très mal ce matin. Je comprends pas. Enfin voilà, je vais la changer. J'essaie de faire quelque chose. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël dans la célébration de la naissance du Fils de Dieu. Ce cadeau merveilleux que nous avons reçu, chacun pour notre part, à des dates différentes, mais nous l'avons reçu. Alors ce matin, je me posais la question, qu'apporter comme message au moment de ces fêtes de Noël? Eh bien, j'ai cherché, j'ai hésité, puis on avait partagé un texte il y a quelques semaines en réunion de prière, je m'en excuse auprès de ceux qui y étaient, mais je me suis dit que c'est quand même un chouette texte à partager pour commencer une nouvelle année. Je ne sais pas si vous faites comme moi, mais moi, cette période-là, c'est plus le regard par-dessus mon épaule pour voir ce que j'ai vécu, ce que j'ai peut-être manqué, ce que j'ai dû faire comme pas de foi, et parfois les moments où j'en ai manqué. Et je regarde et je me dis, bon, voilà, on va essayer d'être plus fidèle. Enfin, je vais essayer d'être plus fidèle, moi, de mon côté, Seigneur, parce que toi, je sais que tu l'es. Puis j'ai un texte qui parle d'hommes fidèles. Est-ce que vous connaissez Chamois? Qui connaît Chamois? Personne? Bon. Ouais. Chafat. Chafat, ça vous dit quelque chose? Oh non, quand même, Chafat. Non? Hein? Robert Chafat? Non, c'est Chafat. C'est bien essayé pour une Suissesse. Est-ce que vous connaissez Yigal au moins? Non. Ah, bah alors. Palti? Gadiel? Non plus. Gadi. Ça vous dit quelque chose, Gadi? Non? Même. Oh là là là. D'ailleurs, je suis mal parti pour une prédication. Amiel, au moins. Non? C'est? Non, c'est pas des noms d'anges, c'est des noms d'hommes. C'est tour. J'ai encore Gewell, c'est le dernier. Les champions de David. Ah non. Pourtant, ils sont 10. Ils sont dans la Bible. Vous l'avez pas eu? Ils sont 10, là. Ah, je suis fier de toi. Je lui ai pas soufflé, hein. Croyez pas que avant le culte, je lui ai dit, écoute, tu interviendras. Non, ce sont les noms des 10 espions qui ont été envoyés pour Moïse avec Caleb et Josué. Je vous aurais dit Caleb et Josué, évidemment, vous auriez trouvé. Mais là, ce sont les 10 qui ont accompagné Caleb et Josué. Ils faisaient partie de ce groupe. Ils sont partis et quand ils sont revenus, ils ont fait cause commune pour dire, eh bien non, nous, on n'est pas pour. Faut pas y aller. C'est beaucoup trop risqué. On va avoir des soucis. En face, ils sont beaucoup plus forts que nous, etc., etc. Donc, ce sont les 10 espions qui vont occasionner ou offrir en cadeau de Noël au peuple d'Israël 40 ans de pérégrination dans le désert. Je ne sais pas quelles ont été les relations entre ces 10 hommes et le restant du peuple d'Israël, mais j'imagine que les 40 ans ont dû être très, très longs pour eux. Hein? Et puis il y avait Josué et Caleb qui, eux, ont donné une autre version en termes de projet pour le peuple et de découverte ou de redécouverte de la fidélité de Dieu dans leur vie. J'aimerais que tu donnes le premier texte que je... Nombre 13, 17 à 20. Je ne sais pas si quelqu'un... qui a sa Bible qui pourrait lire dans la Bible? On a de moins en moins maintenant, on projette les textes, on a son téléphone, ça veut dire que vous avez le texte. Francine, allez, Nombre 13, versets 17 à 20. Et puis après, je demanderai à quelqu'un de lire 13, 22 à 24. Je vois qu'il y a Daniel qui a sa Bible. 13, tu peux déjà te préparer, 13, 22 à 24, d'accord ? Hein ? Juste après Francine. Donc Francine, à haute voix, il faut qu'on t'entende au micro. Amen. Donc c'est le premier passage dans le livre des Nombres où Moïse envoie ce groupe où chaque homme représente une tribu du peuple d'Israël. Ça veut dire que ces 12 hommes à eux seuls représentaient toute la nation d'Israël. Et ils sont envoyés sur ces conseils de Moïse avec cette petite phrase que j'aime beaucoup. C'était le temps des premiers raisins. Je trouve que parfois... Il y a dans la parole de Dieu des petits inserts qui tout à coup nous disent « Pourquoi il nous dit ça ? En quoi ça nous intéresse que ce soit le temps des premiers raisins ?» Eh bien, on va le voir avec Daniel qui va nous lire Nombre 13, 22 à 24 et quelqu'un d'autre. Ben, il y a ça sur l'écran. Alors, je vais demander « Tiens, Christian, tu es en face. Tu vois bien ?» Oui. Eh bien, tu nous liras le texte suivant de Josué, chapitre 15, versets 13 à 19. Daniel, à toi, Nombre 13, 22 à 24.
Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Adoniram,
Je les ai choisis exprès pour toi, ça.
Vous
voyez, le lien par rapport au texte précédent, c'était la saison des raisins. Alors on verra ce que ça peut avoir comme sens pour nous. Et puis, eh ben, Christian, tu vas nous lire Josué 15, 13 à 19. Je ne te dis pas à haute voix parce que toi, tu as le coffre pour. Alors, vas-y.
Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjath-Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui m'a donné une terre du midi. Donne-moi aussi des sources d'eau et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures.
Amen. Voici quelques textes qui nous présentent les conditions, le contexte dans lequel il va y avoir, je dirais, cette entrée dans la terre promise avec ce qui se passe auparavant, l'envoi par Moïse de 12 espions qui représentent le peuple et qui vont, pour 10 d'entre eux, refuser d'y aller et décourager le peuple. Ils font même un travail de sape pour empêcher que le peuple entre dans cette terre promise. Et puis, vous en avez deux, Josué et Caleb, qui, eux, sont fidèle et confiant dans la capacité, non seulement pour Israël, mais pour Dieu aussi, de leur donner la victoire sur les adversaires qui sont là. J'aimerais vous demander, parmi vous, quels sont ceux qui aimeraient, cette année 2026, avoir pour modèle Shamoua, Shaphat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amniel, Setour, Nabi et Geruel. Vous pouvez lever la main, ceux qui voudraient avoir pour... Aucun. Aucun ne voudrait avoir pour modèle ces 10 hommes. Étonnant. Qui aimerait avoir pour modèle ou être encouragé pour cette année 2026 par le modèle de Josué et de Caleb? Levez la main. Ah, il y a plus de volontaires là. D'accord. Il y a quelqu'un qui est neutre à ma gauche. Oui, oui, c'est évident. C'est évident que ces deux modèles nous parlent. La parole de Dieu nous révèle en fait les principes spirituels qui régissent aussi bien les relations qui sont établies entre Israël et Dieu, mais elle nous dit aussi quels sont les principes spirituels qu'il instaure avec l'Église. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour Israël l'est aussi pour nous. Sinon, nous aurions à enlever l'Ancien Testament, à le mettre de côté, à ne garder que le Nouveau Testament. Mais les principes spirituels qui ont établi le fonctionnement, le devenir, les combats que devait mener Israël pour devenir un peuple de témoins pour le monde, ce sont les mêmes principes spirituels. Alors, pour l'Église, la différence étant que la loi, si elle est, comme le dit l'Écriture, un pédagogue qui est là pour nous conduire à Christ, Paul aux Galates, c'est comme ça qu'il le présente, elle ne peut produire, la loi, que les ombres des biens à venir. Là, c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit. Ça veut dire que les principes spirituels, on les découvre dans l'Ancien Testament, mais pour le peuple d'Israël, c'était, il les devinait, il percevait, il comprenait des choses, mais le révélateur qui était la venue du Messie, eh bien, ne leur permettait pas de tout comprendre. Mais les principes spirituels, ce sont les mêmes. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de lire l'Ancien Testament. Parce que nous l'avons, ce révélateur. Un peu comme en photographie, vous savez, on plonge ça dans le bain de révélation, et tout à coup, le papier, moi, j'ai fait ça au collège biblique pendant quelques mois, je trouvais ça formidable, je n'avais jamais fait ça. On met ça dans une chambre noire, dans un bain, ensuite un fixateur, tout à coup, et là, vous avez la photo. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme photo des canards de l'étang du collège biblique de Colding? J'en ai pas gardé beaucoup et un très grand souvenir. Mais moi, ce principe de révélation était important. Est-ce que nous sommes aussi prêts à laisser les principes de Dieu dans l'Ancien Testament, aujourd'hui, au travers de Christ et de l'Esprit Saint, nous parler et faire que ce ne soit pas l'ombre des biens à venir, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, mais quelque chose qui devient lumineux, éclairant pour nous? C'est la révélation que le Saint-Esprit apporte en nous révélant Christ qui rend la loi lumineuse, claire, pleinement compréhensible. Ainsi, ce récit dans l'entrée de la terre promise, refusé par Israël une première fois sous l'incitation des 10 espions timorés, il faut le dire, et gagnés par la peur, puis l'entrée dans cette terre 40 ans plus tard, c'est le reflet de la marche des croyants. Qu'il soit de l'ancienne comme de la nouvelle alliance, ce sont les mêmes principes. Combien de fois, alors vous, je ne sais pas, mais combien de fois, moi, j'ai rechigné. Je suis arrivé devant un croisement et j'ai dit, bah non, pas là, pas maintenant. Et puis, ça m'inquiète, je ne suis pas rassuré. Et puis finalement, il a fallu que le Seigneur me ramène quelque temps après pour me dire, voilà, vas-y, je suis avec toi. Comme disait Moïse au peuple, ne craignez pas. Soyez encouragés. Cette parole démontre les principes qui font la différence entre la défaite et la victoire. Le renoncement aux promesses de Dieu comme leur appropriation. Les principes spirituels demeurent les mêmes, et j'ai envie de dire les êtres humains aussi. Et quand je frappais ma prédication, j'avais dit « et les hommes aussi ». Puis j'ai dit « pourquoi j'exclurais les femmes ?» Hein ?« Et les êtres humains aussi, comme ça ». Tout le monde est concerné. Dans la grandeur de leur foi, comme dans l'importance de leur incrédulité, Nous sommes comme ce peuple d'Israël. Alors, regardons cette parole du livre des Nombres et l'attitude des hommes face aux promesses de Dieu. Regardons et demandons-nous aussi, quand nous lisons l'Écriture dans notre vie quotidienne, si nous sommes des Josué, des Caleb ou de ceux qui reculent, de ceux qui laissent la peur les retenir d'entrer dans les promesses de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui nous concerne et auquel nous serons confrontés dans cette année 2026. Parce que je vous le dis, la terre promise demeure une réalité pour nous aujourd'hui. Alors nous ne sommes pas comme Israël devant Haaretz, la terre à conquérir. Nous sommes, quant au royaume de Dieu, au milieu de nous et en nous. Dans le nombre 13, 17 à 20 que nous avons lu, on peut remettre ce texte-là, Christophe, nous avons l'envoi par Moïse de ces 12 espions. Et cet envoi, Moïse le fait de manière très dynamique, un terme qu'on utilise beaucoup pour Corinne, c'est de son quotidien, c'est une approche motivationnelle. Comment motiver les troupes? Alors, on peut motiver tout en étant dans la réalité. Ce n'est pas de dire, je pense, dans les préparations au mariage, vous savez, on a fait beaucoup de préparations au mariage ces derniers temps, y compris avec Francine, et puis on ne commence pas la préparation au mariage, je dis, vous allez voir, ça va être génial. Tu vas voir, elle va t'aimer, ton épouse, elle va faire de toi un homme nouveau, elle prendra soin de toi. Puis à la femme, on va lui dire la même chose. Puis on va dire, voilà, c'est un peu comme un cantique du Jeunesse en Mission 1, ce sera un jardin rempli de roses, avec des pétales sur lesquels tu marcheras. Formidable ! Non, non, quand on fait une préparation au mariage, on dit, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments durs, oui, ça fait partie de la vie, mais parce que l'amour est en vous et tisse une relation entre vous, il y aura quelque chose de différent. Eh bien, Moïse, il est dans cette approche motivationnelle. La première chose qu'il fait, il les envoie pour explorer. C'est-à-dire, il ne dit pas « on va y aller avec tout le peuple maintenant », etc. Non, il envoie des espions d'abord pour explorer le pays, mais aussi pour qu'ils reviennent et qu'ils encouragent le peuple. Parce que s'ils étaient allés comme ça, bon, Jéricho, c'est sympa, mais aïe derrière, hein. Elle porte bien son nom, cette deuxième ville. Aïe, aïe, aïe. Donc, non, non, il envoie 12 espions pour explorer. Ils sont envoyés pour envoyer d'abord. Il envoya pour explorer 12 espions. Être des envoyés. Ah, je ne sais pas si 2026, vous avez envie, le désir ou le projet d'être des envoyés de Dieu là où vous êtes. Des envoyés de Dieu. Chalar. Il y a là une hiérarchie dans la démarche. Ce ne sont pas les 12 hommes représentant des 12 tribus qui décident un bon matin de partir vers la terre promise. Ils font l'objet d'un envoi vers. Et c'est là que je dis qu'il y a une transposition à faire par rapport à nous. Est-ce que nous ne sommes pas non plus des envoyés de Dieu vers le monde dans lequel il nous a placés? Le peuple d'Israël est arrivé à une étape de leur cheminement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre, retourner dans le désert, faire un tour? Non, ils ont été libérés de la servitude pour entrer dans les plans de Dieu, pour être participants à l'œuvre de salut que Dieu a préparée. Israël n'a pas d'autre raison d'être que de devenir un messager du plan de salut de Dieu pour les nations. C'est là que parfois on a une incompréhension, y compris dans notre approche évangélique, de la place et du rôle d'Israël. Israël n'a de sens qu'en étant un messager, un envoyé de Dieu pour faire entrer les nations dans le salut de Dieu. Ils ne sont pas là pour eux-mêmes. Je dirais, quand je regarde l'Église, je me pose la question si nous n'avons pas le même travers. Ah oui, qu'est-ce qu'on est bien entre nous? C'est vrai. Enfin, entre certains d'entre nous, hein. Pas tous non plus. Hein. Je pense au groupe œcuménique où on travaille avec les catholiques, les réformés, puis on a un prêtre catholique qui est qui est savoureux dans ses relations. Il est tellement à l'aise avec nous, avec les protestants évangéliques et réformés, qu'il se permet de blaguer, etc. On a commencé la préparation de la célébration. Nicole était là, Bernadette aussi. Et puis, il disait, oh, à un moment donné, on était en train de construire la célébration du mois de janvier, puis il dit, oh, ces protestants qui n'arrêtent pas de protester. Mais on l'aime quand même. Mais nous ne sommes là en tant qu'Église, pas pour être entre nous. On n'est pas dans de l'entre-soi. On est là parce que nous entrons dans les plans de Dieu pour le monde, pour être envoyés. Ils sont envoyés, ces 12 espions. Ils sont en mission. D'ailleurs, dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, il y a un lien entre l'envoyé et le message. Beaucoup de textes disent... Et il envoya un message, ou il envoya une parole, ou il envoya quelque chose à apporter. Le terme de shalach, envoyé dans l'Ancien Testament, est souvent utilisé. Il y a quelque chose. Ce n'est pas moi qui est le contenu du message, non. J'apporte quelque chose. J'apporte une bonne nouvelle. La notion de envoyer avec un message se retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament et ce mot shalach. Alors, ça peut être un message qui est... bon ou mauvais, positif ou inquiétant, mais l'envoyé ne vient pas sans un message, une mission à accomplir. Les 12 espions ont une mission, qu'on va voir un peu plus loin, mais ils sont là pour porter quelque chose au peuple qui les attend. Vous êtes envoyé avec quel message? Pour votre voisin, votre famille, vos amis? Celui que vous allez croiser dans un magasin, à un moment totalement imprévu, quel est le message que vous portez en vous parce que vous êtes envoyé vers lui ou vers elle? C'est vrai que pour rester dans la logique du parallèle entre Israël et l'Église, nous pouvons considérer que les membres de l'Église sont également appelés par Christ. Mais alors, quelle serait leur mission? La première, j'ai envie de dire, c'est d'étendre le royaume de Dieu. Notre mission, c'est d'être ces envoyés qui peuvent étendre le royaume de Dieu. Alors, avant de l'étendre à l'extérieur, encore faut-il l'étendre à l'intérieur. On a le Saint-Esprit qui dirige le ministère de l'intérieur. Si. Et son but, c'est de faire que le royaume de Dieu soit étendu en nous. Donc, le croyant, qu'il soit d'Israël ou de l'Église, il doit d'abord étendre le royaume de Dieu dans sa vie. C'est l'ordre qui est donné à Abraham et à tous les patriarches, qui a été de se lever, et le terme hébraïque, je vous en ai beaucoup parlé ces derniers temps, c'est « Lève-toi, lech lecha, lève-toi vers toi-même. » C'est-à-dire que se lever pour être envoyé, c'est d'abord se lever vers soi-même. Ça, les rabbins, y compris aujourd'hui, parlent beaucoup. Il y a un jour, un sabbat, qui est consacré à cette paracha du Lech Lecha d'Abraham. Et tout le peuple juif entend ce message, lève-toi vers toi-même. Avant d'aller vers la terre promise, avant d'être envoyé vers les autres, va vers toi-même. Est-ce que je suis prêt en 2026 à aller vers moi-même, à laisser le Saint-Esprit faire que je me rencontre, que je sache qui je suis, ce que je porte comme message, étendre le royaume de Dieu. On ne peut pas étendre le royaume de Dieu dans ce monde si nous ne l'étendons pas à l'intérieur de nous. Notre capacité à étendre le royaume de Dieu là où nous sommes dépend de notre faculté, de notre acceptation à étendre le royaume de Dieu en nous. Bon, moi, je n'ai pas besoin, tout est occupé, le royaume de Dieu, dans toute la dimension de mon être. Non. Il y a des transformations à accepter, des conversions à vivre, afin que ce royaume en nous nous donne la capacité d'être beaucoup plus disponible à l'œuvre de l'Esprit-Saint. étendre le royaume de Dieu dans ce monde, parce que c'est l'ordre missionnaire que nous avons reçu dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Puis, et c'est pas n'importe qui, c'est Jésus qui parle, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est la mission des espions que nous sommes au milieu de ce monde. Là, il y a les mecs qui disent, espion, James Bond, donc je suis James Bond. Le James Bond de Dieu au milieu du monde. Un martini, s'il vous plaît, à la cuillère. Non, mais nous sommes véritablement, au milieu de ce monde, des espions qui sont là pour savoir comment étendre, comment s'approprier. Et je dirais que la mission qu'il leur confie, c'est d'aller, il les envoie. Alors, est-ce que vous êtes envoyés? Oui? Non? Peut-être? Je ne sais pas encore. Il serait important que nous le sachions. Est-ce que je suis envoyé? Ça conditionne les 365 jours de cette année qui vient. Si je ne suis pas envoyé, je peux m'occuper de mon jardin. Hein. Ça ne pose pas de problème. J'ai des carottes à planter, des pommes de terre. Mais si je suis envoyé, alors le sens de ma vie pour ces jours qui viennent, ces semaines et ces mois, devient complètement différent. Est-ce que tu es envoyé? Et l'envoi de Moïse dit ensuite, il les envoya pour explorer le pays de Canaan. Moi, j'aime beaucoup cette notion. Explorer, je ne sais pas si vous êtes des explorateurs. Moi, je crois que je serais un très mauvais explorateur. Je suis incapable de préparer un voyage, donc je me paume. Je me trouve la mauvaise route, je rate le bon train, etc. Mais néanmoins, je crois que être chrétien, c'est devenir les explorateurs de Dieu par rapport à ce qu'ils ont à vivre dans l'Église, mais au-delà de l'Église. Est-ce que vous voulez être des explorateurs pendant cette année qui vient? Moïse envoya les 12 espions pour explorer le pays. Alors, je sais pas, je réfléchissais, je me dis, si je devais faire un CV pour postuler à un travail d'explorateur, qu'est-ce que je mettrais de moi ou qu'est-ce qu'il faudrait que je mette pour que je sois pris? Je ne sais pas. Vous feriez des bons explorateurs pour vous? Il y a déjà une tête qui dit « Oh non, 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 non. Moi, juste mon quartier. Hein. Au-delà... Déjà, N bon, c'est l'inconnu. Hein. Ah, Daniel. Ah, oh, ouais. Mais je crois que être explorateur, c'est ce que l'Esprit Saint veut faire de nous par rapport au royaume de Dieu. Mais pour être explorateur, je me disais, il faut qu'il y ait de la curiosité. Être curieux de ce qu'il y a derrière, de ce que l'on ne connaît pas. Il faut qu'il y ait de la persévérance. Vous imaginez que sur son bateau, je ne sais pas si c'était le Santa Maria, mais Christophe Colomb se disent, bon, écoutez, les gars, ça fait un bail qu'on est parti. On n'a pas trouvé la route qui mène aux Indes. Ouais, allez, on va faire demi-tour. Hein, vous êtes d'accord? On fait demi-tour. Parce qu'on a plus beaucoup d'eau fraîche, etc. Ouais, on va rentrer. Il n'a pas fait ça. Il avait la curiosité de ce qu'il y avait après. Caleb était habité de cet esprit-là, de cette curiosité et de la persévérance qui va avec. Alors je me suis dit, mais Seigneur, si je devais être envoyé par toi et être un explorateur des choses qui t'appartiennent, qu'est-ce qu'il me faudrait comme qualité? L'amour, l'amour des autres qui sont en face, hein, hein, la joie de faire quelque chose qui est nouveau. La découverte, il y a quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais plus quel est... Il y a un de nos petits-enfants qui a... Ah oui, c'est notre petite-fille qui a demandé comme cadeau l'année dernière, vous savez, ses poils à frire pour trouver du métal ou de l'or ou des bagues, etc. Elle est venue en vacances ici, elle a dit, c'est chouette, il y a des plages en Suisse, c'est quand même restreint. Pourquoi elle a demandé ça? Parce que être explorateur, aller à la découverte de trésors, c'est quelque chose qui donne envie. La joie, est-ce que la paix, ça peut être aussi quelque chose qui est lié? Moi, je crois qu'il faut une certaine paix pour être en accord avec soi-même, avec le royaume de Dieu, avec l'envoi dont nous sommes l'objet, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, enfin tous ces fruits de l'esprit qu'on trouve en Galates 5:22. Est-ce que c'est cela qui peut faire de moi un bon explorateur pour le royaume de Dieu? Alors j'ajouterais évidemment la curiosité, l'envie de connaître, l'envie de découvrir. Tous les grands explorateurs ont été habités par ces traits de caractère. Et ils se sont dit, je pense que tous les grands explorateurs m'ont dit, bon, on est arrivé là, mais allons plus loin. Et est-ce que les enfants de Dieu, Caleb, Josué, oui, ils avaient cela. Les autres, ils étaient là, ils regardaient les montagnes, ils voyaient les fils d'Anak, etc. Dire, est-ce qu'il faut forcément aller plus loin? On en a peut-être vu assez, retournons voir le peuple. Vouloir aller plus loin. Est-ce que vous êtes habité par cet esprit-là? Quand je dis esprit, je ne parle pas de l'Esprit Saint, de votre esprit. Cette volonté d'aller plus loin avec Dieu. Bon, Michel, je sais qu'il est arrivé là maintenant, il ne va pas aller plus loin. Il se dit, bon, maintenant, on a une église, j'ai fait ma part. Non, c'est ça, Michel? Non, peut-être pas. Le connaissant, il se dit, il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Et pour vous, est-ce que cette année, c'est une année où vous dites, allons plus loin? Avec toi, Seigneur, je veux aller plus loin. Trop de chrétiens, à mon sens, se contentent de franchir le Jourdain. Un petit peu comme ces deux tribus ennemies qui ont dit, « Oh, ben nous, tu sais, la terre promise, oui, c'est une belle promesse, mais nous, ce qu'il y a là, ça nous suffit, on n'a pas besoin de plus. » Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans cette option-là. « Ouais, maintenant que je suis baptisé, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est génial. » Et après, un peu, moi je suis plutôt un chrétien thessalonicien, j'attends le retour du Seigneur. Ah, c'est spirituel. Mais est-ce qu'entre le maintenant et le retour du Seigneur, je n'ai pas des découvertes à vivre, quelque chose d'exaltant? Est-ce que mon rapport à la parole de Dieu, par exemple, c'est, maintenant moi j'ai assez, je lis un verset, un chapitre par jour, ou par semaine, ou par mois, parfois même dans l'année? Et ça suffit, ça nourrit ma foi. En plus, il y a le pasteur qui est là pour ça. Faut quand même pas exagérer. Non ? Est-ce que la terre promise dans ta vie et dans la mienne, c'est quelque chose qui est aussi à venir, à devenir ? Et vraiment, j'ai envie de dire, allez, j'ai cherché, j'ai fait l'effort. Si j'avais un logo à proposer, ou un mot d'ordre, voilà, un mot d'ordre dans ma vie, dans l'Église, ou... peut-être pour vous, j'en ai un à vous proposer. Et après, c'est tout. Et après, Seigneur, je suis là, mais et après, qu'est-ce qui se passe? Où je peux aller? Qu'est-ce que je peux vivre? Moi, j'aime bien cette formule. Et après. Je ne dis pas que je mettrai ça sur ma pierre tombale, parce que bon, là, je serai arrivé au bout. Mais avant, je crois que ce serait juste de dire « et après, Seigneur ». Moïse dit aux espions, vous montrez sur la montagne. Alors, il les envoie, ils vont explorer, mais il leur donne aussi une méthode, je trouve, qui est très rationnelle. Vous montrez sur la montagne. Moi, ça ne me serait pas venu à l'idée de dire à des espions que j'envoie, bon, montez sur la montagne, je dis, allez-y, allez de l'avant. Non, il dit, lorsque Moïse appelle les 12 représentants pour explorer, il les invite à prendre de la hauteur. Il s'agit pour eux de voir d'en haut et surplomber le pays pour en discerner les détails. Vous savez qu'au ras du sol, comme on dit, il est difficile de discerner les détails d'un paysage, d'une géographie. Le moindre cours d'eau, si on est au ras des pâquerettes, comme on dit, n'est pas visible. La moindre colline cache des contrées entières. Quand je suis allé, j'ai découvert la Suisse, c'est une chose qui m'a étonné, c'est que quand on partait en randonnée avec les enfants, on voyait des choses, mais plus on prenait de la hauteur pour découvrir des aspects du paysage qui nous échappaient tout à fait. Et c'était là le plaisir de monter le plus haut possible, parce que tout à coup, chaque vallée se découvrait, des villages entiers apparaissaient. Montez sur la montagne, prenez de la hauteur. Et j'ai envie de dire que c'est un principe là aussi spirituel. Pour pouvoir explorer et entrer dans les promesses de Dieu, il faut prendre de la hauteur. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un conseil non seulement avisé et nécessaire, mais que nous avons du mal à envisager. Combien il y a d'activistes spirituels dans l'Église ? Moi, je suis là pour avancer. Moi, je suis là pour faire mettre un pas devant l'autre. Ça me fait penser au quand j'étais sergent à l'armée, ça remonte à un bout de temps, mais j'étais dans l'infanterie. Qu'est-ce qu'on pouvait marcher ? Mais parfois, on marchait sans trop bien savoir ce qu'il y avait devant nous, autour de nous, etc. Je me rappelle qu'on avait fait un 15 jours dans la Somme, dans la baie de Somme, enterré dans les sables, etc. Et puis, on nous disait, il faut aller infiltrer tel... Alors, on infiltrait des positions de campeurs civils, hein, des terrains de camping. On nous disait, vous devez aller là, vous devez passer inaperçu. Et puis, vous devez vous infiltrer, etc. Mais on ne savait même pas où étaient les choses. On perdait un temps fou parce qu'on était au ras du sol. Bon, et puis après, quand le déguisement, c'était faire brûler un bouchon et se faire une fausse moustache avec des cheveux coupés à la militaire, dès qu'on arrivait près d'un terrain de camping, tout le monde nous voyait et tout le monde fuyait. Parce que c'est quoi, ces gus? Mais on ne voyait rien. Prenez de la hauteur. Ça veut dire que nous avons aussi pour mission, pour pouvoir explorer des contrées nouvelles, des missions nouvelles, de prendre de la hauteur. Et la hauteur, c'est de se trouver avec Christ dans les lieux célestes, de cultiver cette position, de cultiver la relation avec Christ dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Nous devons prendre cette hauteur en demeurant en Christ. Ceux qui sont des activistes et qui se contentent de marcher s'épuisent, se fatiguent et surtout ne voient pas là où ils doivent aller. Puisqu'ils siègent à la droite de Dieu, alors c'est en demeurant en lui que nous pouvons discerner ce qui est à conquérir dans les moindres détails. Moins nous montons en hauteur et moins nous allons loin spirituellement. Et puis... Moïse encourage et dit « Ayez bon courage et prenez des fruits du pays ». Cette invitation, moi, je trouve qu'elle était là pour donner de la motivation aux 12 espions. « Ayez du courage ». Alors déjà, quand vous avez le chef qui dit « Bon, vous allez explorer, mais alors bon courage hein. », vous dites « Tiens, ça annonce que ça ne va pas être facile ». Et puis... C'est vrai, il y a conquérir le pays, c'est se confronter à de l'opposition, c'est prendre des risques. Mais c'est aussi une aventure, c'est notre appel. Et nous sommes équipés de tout ce que Christ peut, par son Esprit Saint, déposer en nous et dans l'Église pour que notre exploration et l'extension du royaume de Dieu puissent s'accomplir sans que nous soyons en difficulté. Mais pourquoi ramener des fruits au retour ? Alors, selon les conseils de Moïse, c'est lui qui le demande. Moi, je lui dis, on va consommer sur place, mais ça sert à quoi d'en ramener ? On va pas, à 12, on ne va pas nourrir le peuple, 5-6 millions de personnes peut-être, je ne sais pas. On ne va pas les nourrir tout ça, avec ça. Mais en fait, c'est certainement parce que les fruits que l'on ramène de ce pays, de la terre promise, vont convaincre ceux auxquels ils feraient leur rapport, pour devenir aussi des porteurs de motivation. Qu'est-ce qui va donner envie aux hommes et aux femmes de notre temps d'aller découvrir cette terre promise que nous avons découverte en Jésus-Christ ? C'est les fruits que nous portons. C'est les fruits que nous portons. Toi, tu n'es pas comme les gens de ce monde. Hein. C'est bizarre. Qu'est-ce qui fait que tu es différent ? Je me suis converti jeune, et puis j'ai travaillé pendant mes études au Touring Club de France, dans un château, etc. Puis on était une bande de jeunes. Et puis les jeunes qui étaient avec moi, j'avais deux copains, c'était l'été, c'était la fête, c'était... la découverte de tout ce qui fait belle la vie pour des jeunes de 17-18 ans. Et puis, ils en profitaient. Puis moi, j'avais un frein, comme un jeune qui me disait ça. Pourquoi je ne suis pas comme les autres? Pourquoi en boîte de nuit, je ne peux pas faire comme les autres? Ben ouais, ben parce que tu as entendu parler de l'Évangile et que c'est, ça pose des limites. Et puis moi, un des plus beaux compliments que j'ai eu, c'est une jeune fille qui était avec nous, puis qui est venue une fois me voir, me dit, mais toi, tu n'es pas comme les autres, pourquoi? Ben, j'étais chrétien déjà, donc je ne pouvais pas faire comme les autres. Est-ce que les gens qui sont autour de vous voient vos fruits, celui que vous rapportez chez vous, au travail, etc., et disent, voilà, ces fruits-là, ça nous pose question. Moi, je pense qu'il y a, pour faire grandir la foi du peuple et faciliter l'entrée dans la terre promise, ramener des fruits, c'est donner envie sur ce qu'il y a derrière. Si tu rentres dans les promesses de Dieu, voilà ce que tu peux voir dans ta vie. C'est une belle image. Puis c'est une manière de faire aller de l'avant, c'est de générer de l'envie. Est-ce que vous générez de l'envie? Oh là, excusez-moi, je raye cette phrase-là. Est-ce que vous générez de l'espérance d'une vie meilleure, différente? Je ne dis pas plus facile, différente. Là où vous êtes. La grappe de Canaan, je vais m'arrêter là, mais la grappe de Canaan, elle a été surnommée Néel Eskol. Et dans l'iconographie, la grappe de Canaan, elle a été très, très, très présente. C'est l'histoire de cette grappe, vous savez, il dit qu'ils ont porté sur un bâton une seule grappe à deux. Moi, au début, quand j'étais chrétien et que j'ai lu ça, je dis, ouais, bon, c'est un petit peu exagéré. Une grappe, deux hommes pour la porter, ça me paraît un peu excessif. Et puis... J'ai découvert que Flavius Joseph, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un des rares historiens juifs qui est né en l'an 70, donc quelques années après la mort de Jésus, et qui a fait une histoire d'Israël et de Jérusalem, qui était une œuvre tout à fait acceptée par les Romains, les Grecs, etc. Et Flavius Joseph raconte que cette grappe-là, a été sculptée dans un métal et elle était fixée au-dessus de l'entrée du temple de Jérusalem. Donc, le temple de Jérusalem a été détruit quasiment au moment de sa naissance, mais tout le monde en parlait. Il y avait cette grappe énorme. Alors, certains disent qu'elle était plutôt sur les battants des portes, mais en tout cas, lui dit qu'elle était au-dessus. Elle représentait cette grappe qui était portée par ces espions. Alors on se dit, ouais, c'est une histoire. Sauf que, en fait, cette, dans l'iconographie chrétienne, mais aussi juive, on la retrouve à plusieurs autres endroits. Par exemple, cette grappe, elle a été sur des vitraux, elle a été découverte sur un temple près du lac de Tibériade. Il y a des endroits comme ça. Est-ce que je vous parle de Notre-Dame de la Gerge de Bretagne? La collégiale Notre-Dame, non, vous ne connaissez pas, côté Saint-Malo, Dine. En fait, il y a des stalles à l'intérieur, et sur les stalles qui datent au moins du 12e au 13e siècle, vous avez la sculpture de la grappe de Canaan. Alors, c'est très présent. Un des plus grands tableaux qui a été fait avec ça, c'est Nicolas Poussin. Au Louvre, vous avez un tableau de Nicolas Poussin qui a été fait pour le petit-neveu de Richelieu, et il l'a perdu au dé. Il faisait une partie de D, il avait le tableau de Nicolas Poussin, il l'a perdu, et maintenant il est arrivé au Louvre. Eh bien, ça représente, je vous invite à le regarder, les deux porteurs avec cette énorme grappe. Tu vois, c'est une grappe énorme. Sauf que, en fait, en Israël, il y a une variété de grappes qui fait au moins, une seule grappe peut faire 1 mètre, 1,20 mètre, une grappe. Tu dis, oui, oh, là. Il nous raconte que c'est génétiquement modifié. Non, non, c'est, c'est une variété de raisins qui existe en Israël et en France. En France, depuis 1633, vous avez une fête à Arbois. Arbois, c'est dans le Jura. C'est le Jura. Hein. Et ils ont, alors eux, ils fabriquent une grappe avec plusieurs grappes, mais c'est de cette variété de Enescol. Et c'est cette variété qui est présentée comme la variété du raisin de Jérusalem. Et vous en avez toute une culture dans une région française je sais plus où c'est, j'ai oublié, mais c'est dans le sud, c'est pas, je cherche dans mes notes, non, je ne l'ai pas. Mais en tout cas, il y a une plantation unique de ce raisin de Jérusalem dans le sud de la France. Alors je me dis, quel est le sens de cela? Alors on me dit vin, raisin, mais aussi fruit des promesses de ceux qui explorent le royaume de Dieu et le transmettent. Est-ce que nous sommes de cette nature-là? Je vais m'arrêter là, mais je terminerai juste avec les propos de Caleb, quand cherche à apaiser les 10 autres et le peuple, qui dit « Allons-y sans tarder, prenons possession du pays, car nous sommes capables de le conquérir. » Trois données. Et j'ai envie de dire pour 2026, Allons-y, dans nos vies personnelles, dans l'Église, allons-y. Pendant un séjour qu'on a fait à Marrakech avec Francine, il y a une formule que les Arabes utilisent tout le temps. C'est quoi? Non, pas Inch'Allah, mais pas loin. Yallah! 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 Allons-y! En arabe, c'est Yallah! Il nous disait, après il rajoutait, parce qu'il y avait les femmes qui traînaient toujours, évidemment, elles allaient moins vite que les hommes. Alors il disait, Yalla les gazelles. Mais j'avais dit, Yalla, allons-y. Soyons des Caleb dans notre démarche, dans notre foi, dans notre quotidien. Yalla, sans tarder. Maintenant, pourquoi tarder et attendre? Yalla, maintenant. Tu peux attendre. Mais c'est du temps perdu. Yallah. Et prenons possession. Prendre possession. C'est-à-dire faire à soi, faire sien ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Est-ce que tu veux prendre possession du royaume de Dieu? Yallah. Allons-y. Sans tarder. Et prenons possession, car nous sommes capables de conquérir le pays. Vous êtes capables. Je suis capable parce que l'Esprit Saint en nous a équipés pour cela. Mais Dieu ne fera pas cela sans nous. Amen.